se trouve où là ?
Positive Onde.
Là, on se trouve dans la salle des mélanges.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Vous allez voir.
Ah, nous allons entendre surtout. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Aude pour découvrir une chapellerie unique en son genre.
Je m'appelle Philippe Durand et je suis un des membres du conseil d'administration de la SIC Montcapel et je suis un des membres fondateurs. Ouais.
Montcapel, société coopérative d'intérêt collectif, est la dernière fabrique de chapeaux de feutre de France, de la laine au chapeau fini.
Le lieu, il a à peu près 100 ans, hein, puisqu'on est sur des anciennes terres maraîchères qui ont été vendues en 1923 au premier propriétaire de la chapellerie, M. Canade de la Chapelle. Et donc le temps de fabriquer, la chapellerie a ouvert dans les années, première moitié des années 20 de... d'année 1900. Ouais.
Au programme, pendant 30 minutes, en immersion, nous découvrons toute une fabrication, nous découvrons Montcapel.
Mont parce qu'on est à Montazel et Capel parce que chapeau en occitan.
Nous découvrons tout ça en immersion. Retour au tout début du processus de fabrication.
Je me suis payé un beau chapeau.
On se trouve où là ? Là, on se trouve dans la salle des mélanges. Voilà, c'est là où on va mélanger la laine mère mérinos et les déchets de filature, la brousse. Donc la première, on va les aérer, les oxygéner, etc. Puis après, on va les mélanger.
Oh là là, quel beau chapeau!
Désolé de contredire Sacha Distel et sa chanson, mais il y a encore plein d'étapes avant d'avoir un chapeau.
Actuellement, la matière première, la laine mérinos, c'est des mérinos d'Arles, dont la laine est oxygénée, nettoyée à Mazamet.
Le mélange se fait donc entre de la laine mérinos à fibre longue, en provenance de Mazamet, et de la laine mérinos à fibre courte, rebut de la filature.
Il est là, Serge ?
Ah non, pas encore, il sera là dans 2 minutes 35 environ.
Donc ça tombe dans ces silos-là, dans les grands silos. Ça fait à peu près 4 mètres de haut, hein. 4 mètres de haut, vous voyez. Après, une fois, on le met dans les grands bacs, voilà, et après, on va carder. Donc on met les mélanges dans la carde, là. La carde, ça consiste à peigner la laine, et ça va fabriquer un voile, qui va, les voiles s'additionnant les uns sur les autres, ça va faire ce qu'on appelle un matelas.
Ça va, on n'est pas sur du trop bruyant pour le moment.
Non, la batteuse, c'est plus bruyant. Voilà. Non, là, c'est pas trop bruyant.
Et là, donc, on voit clairement la matière première, enfin la laine, finalement, qui passe dans la machine et qui arrive, qui sort en rouleau avec ce matelas.
Ouais, ça sort sous forme de voile et ça s'enroule. Voilà. Et après, il y a une certaine épaisseur et la machine coupe à la dimension voulue et ça tombe dans ce tir réceptiable.
Et suivant le chapeau que l'on veut faire, on change l'épaisseur et la longueur.
Alors on change l'épaisseur, la longueur c'est toujours la même. La taille on la changera à la petite carde. Voilà. Alors là pour l'instant il n'est pas question de faire des chapeaux, on fait des cloches. C'est-à-dire on va faire des cloches 160, 180, voilà. C'est le poids, c'est le grammage. Voilà.
Les machines, elles ont en moyenne autour de 80 ans, quoi, à peu près.
Cette grosse machine-là, c'est ce qu'on appelle la grande carde ou la carde, par opposition à l'autre, qui est la petite carde. Il y aura deux personnes, il y a une personne qui va garnir la petite carde, et puis il y a une autre personne qui va enrouler la laine pour faire commencer à bâtir la forme de la cloche, pour fabriquer ce qu'on appelle un bastissage. Et la machine est réglée à la taille, au rythme de la personne qui est ici, de l'enrouleuse.
C'est la personne qui donne le rythme à la machine.
C'est, oui, voilà.
On adapte la machine en fonction de la personne qui travaille dessus. Chaque personne a son coup de main, donc on adapte la machine au coup de main de la personne qui travaille dessus.
C'est plutôt bien parce qu'on a tendance maintenant dans l'industrie à être un peu à l'inverse. C'est la machine qui donne le rythme et la personne qui s'adapte coûte que coûte.
Ah oui, non, là c'est surtout par rapport au coup de main. Donc il faut régler la machine par rapport au coup de main de la personne qui va travailler dessus.
Et là, je plante juste le décor parce que la voix qu'on vient d'entendre, c'est Serge qui est un peu le chef d'équipe de tous les ateliers. Là.
Voilà, c'est moi le responsable de tout l'atelier fabrication.
La première année où on a remis en route la chapellerie, on a passé un an à remettre en état l'outil de production. Tous les chapeaux qu'on fabriquait, c'était avec des cloches qu'on avait récupérées de l'ancienne chapellerie quand elle a fermé ses portes. Donc, vous voyez, vous avez la forme de la cloche où la laine s'est enroulée, voilà, est unie. Et, voilà, elle est agglomérée autour de ça. Mais elle n'a aucune force, aucune consistance. Hein. C'est de la charpie, vous pouvez la déchirer comme vous voulez. La laine a été cardée, hein, donc assemblée et peignée. Et maintenant, on va la feutrer. Donc feutrer la laine, c'est qu'on va la renforcer. Hein. Donc, c'est-à-dire que les fibres vont se mettre les unes avec les autres pour donner consistance à la cloche. Ce qui après, une fois, va nous permettre de la travailler, de la nettoyer, etc. Et après, de pouvoir fabriquer un chapeau. Le feutrage, il se fait en trois parties. Enfin, en trois temps. Le sémoussage, le multirouleau et le foulon.
Alors, le sémoussage, c'est le premier feutrage. Alors, c'est une machine qui marche par vibration. Il y a de la vapeur qui sort de par-dessous, de dessous les plaques, qui va permettre à chauffer la cloche pour qu'elle puisse se feutrer avec les vibrations des plaques de dessus.
Avant, la personne qui faisait le sémoussage faisait que du sémoussage. On avait un poste, on gardait le poste. Là, maintenant, la personne qui va faire le sémoussage va faire le sémoussage un temps, après va aller faire un autre poste, etc. On travaille par tranche, par étape.
Tiens, à ce propos, nous avons rencontré Nicolas qui travaille à la chapellerie.
Il faut faire tous les postes, on apprend à chaque étape, on fait un autre poste et tout ça, on apprend beaucoup et c'est bien. Franchement, c'est le métier qui est plaisant. En fait, quand on va arriver ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire en fait. C'est ça qui est bien. Du coup, on va faire le dégageage, ou soit on va poncer des cloches, ou soit on va faire des milliards de postes en fait. On fait beaucoup de postes et c'est ça qui est bien.
Tous les jeunes qu'on a embauchés, on les forme à être polyvalents, qu'ils puissent travailler sur toutes les machines. Ce qui veut dire qu'ils peuvent travailler une journée ici, une journée ailleurs, sur d'autres postes. Ils ne sont pas comme à l'époque, toute l'année sur le même poste. Et ça permet aux jeunes de comprendre aussi les défauts qu'il peut y avoir sur les cloches. En travaillant sur tous les postes, on sait d'où vient le défaut.
On travaille 4 jours, parce qu'avant on travaillait un vendredi, mais pour 3 heures. Et niveau production, pour la chaudière et tout ça, c'était pas bien d'allumer une chaudière pour 3 heures. Donc du coup, on a fait ces 3 heures, on les a mis du lundi au jeudi, donc on fait 8h45 par jour à peu près. Et ça va très bien. Le jeudi, on a un week-end, donc ça va, impeccable.
Ici, vous avez le deuxième feutrage, c'est le multirouleau. Sur les bandes, là, sur les couloirs, on va positionner les cloches qui ont déjà été feutrées une première fois pour les feutrer une deuxième fois. Elles vont passer dans de l'eau chaude, dans à peu près 40 degrés, et elles vont passer entre deux rouleaux, c'est les vibrations, avec l'eau chaude et tout, qui va permettre à la laine de se feutrer un peu plus. Voilà, il faut que ça passe 18 fois dans la machine.
C'est le frottement qui fait le.
Les cloches, chaque fois qu'elles sont feutrées, elles rétrécissent. Elles rétrécissent, elles deviennent plus épaisses et plus dures.
Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chats, chats. Chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille.
Non, chapeau de feutre.
Grosso modo, il y a deux ateliers. Traditionnellement, il y avait la foule qui allait du mélange au battage, c'est-à-dire la foule concernait tout ce qui était la fabrication de la cloche et l'appropriage qui allait de la fin de la cloche à la fabrication du chapeau. Hein, c'était les deux grands ateliers. Là, il y a un tambour avec un mouvement tournant, c'est du bois, et les cloches, elles sont battues, toujours imbibées d'eau, et rétrécies énormément, et vous voyez, quand elles sortent de là...
Ah oui, alors là on ne le voit pas, donc il faut expliquer, mais là, vous êtes en train de tirer sur la cloche, mais on est sur de la laine qui est... on n'est plus sur la laine, on est sur du feutre, là.
Voilà. Là,
c'est indéchirable, déjà.
C'est indéchirable. Et il y a toujours de... On regarde toujours comme ça, c'est pour ça qu'il y a des grandes baies vitrées, parce que s'il y a du jour qui perce dans la cloche, il y a un défaut. Voilà.
Color, le monde.
Là, la cloche, elle est feutrée, donc après, on va la teindre.
C'est des teintures acides, exprès pour le textile. Voilà, on a plusieurs couleurs différentes. On fait des mélanges de rouge, de bleu. Et après, on obtient la couleur que l'on veut faire.
Moi, si je veux un chapeau turquoise, j'aurai un chapeau turquoise.
On peut, bien sûr. Il faut faire des essais, échantillonner, trouver la bonne couleur. Et après, on fait tout. On peut tout faire.
Après la teinture, c'est l'essorage. Parce que les cloches sont imbibées d'eau. Donc il faut un peu les déshumidifier, quoi. Et donc c'est comme une grosse machine à laver. C'est un mouvement tournant qui assèche un peu la cloche, quoi. Et après, il va y avoir ce qu'on appelle, après l'essorage, ce qu'on appelle la dégageuse de tête.
La dégageuse de tête ?
Ouais. C'est-à-dire qu'on va dégager la tête, vous voyez, parce que la cloche ou la cône, c'est un peu en forme pointue.
Hein ? On va dire, pour décrire, on est un peu moins sur une cloche pointue, mais on a un peu le haut du chapeau qui s'arrondit. Enfin, on n'est pas encore sur du chapeau, sur de la cloche.
Arrondir. Quand ça va être bien imbibé de vapeur, on va mettre la cloche ici.
Alors ici, ça va permettre d'écarter la tête. Les cloches, quand elles sortent du foulon, elles sont pointues. Pour qu'on puisse former un chapeau, il ne faut pas que les cloches soient pointues. Donc la machine qu'on appelle la dégageuse de tête va permettre d'écarter la tête. Voilà, ça sert à écarter la tête. Ça forme la tête.
Après cette étape, nous arrivons au clochage. Non, je ne mettrai pas de son de cloche. Non, 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 n'insistez pas.
Le clochage, ça permet de donner la taille de la cloche et la forme finale de la cloche. Alors c'est pareil, on travaille toujours avec de la vapeur. On met les cloches sur la vapeur pour qu'elles deviennent molles et puis après on les passe sur la clocheuse qui va permettre d'étirer les cloches. Ça étire la cloche, ça tend la cloche et ça y donne la taille que l'on veut faire par rapport au chapeau qu'on va devoir faire.
Alors pour le chapeau, il y a la forme, mais il y a aussi, j'imagine, la taille. Il y a différentes tailles de chapeau, mais est-ce qu'au départ, sur la cloche, on est sur les mêmes tailles, quel que soit le chapeau derrière ?
Plus le chapeau est grand, plus on mettra de feutre sur la cloche. Il y a des chapeaux, les petits chapeaux, on va travailler sur du 140 grammes. Et par exemple, sur des chapeaux comme des Napoléons, ce sera 300 grammes. C'est pas la même chose. Hein. Parce que les chapeaux Napoléon, il faut les tirer beaucoup. Si on part sur du 140 grammes, on n'y arrivera pas. C'est trop petit. Donc, on part sur du 300 grammes.
Là, quand ils sortent du clochage, on va les mettre à l'étuve. L'étuve, c'est... C'est un peu, c'est le bain de vapeur de la cloche, c'est le sonat des cloches. Voilà, elle se repose et ça va permettre de faire ressortir toutes les petites aspérités avant de poncer la cloche.
J'ai un grand chapeau.
Ah non, pas encore. Je crois que nous arrivons là au ponçage.
sont des postes comme le saumoussa, c'est un métier. C'est pas facile d'arriver à doser, puisqu'on a un papier vert dans la main, de savoir bien poncer pour être régulier de partout. Voilà, le ponçage, ben, ça permet d'avoir des cloches bien lisses, de toutes les fibres qui dépassent, ben, on ne les voit plus, on a une cloche bien propre.
Après le ponçage, le battage.
Là, en fait, les cloches, elles sont battues
elles
dedans.
Elles sont battues pour enlever toute la poussière qu'il y a dessus, parce que quand on les a poncées, le fait de les poncer, ça fait de la poussière. Donc, elles vont être battues pendant 20 minutes pour enlever la poussière.
Et après, elles ressortent de l'autre côté de la machine.
Elles ressortent de l'autre côté. Et on les passe plusieurs fois dedans, parce qu'il faut les laisser quand même un certain temps.
Ah, il faut les laisser un certain temps, pour ne pas dire un temps certain. Mais à la radio, nous n'avons pas trop le temps. Alors, on accélère.
Voilà, là, c'est la dernière étape pour fabriquer la cloche. Là, la cloche est finie.
La SIC Montcapel, elle est née en août-septembre 2019. Et la chapellerie, on a réouvert les portes le 1er octobre 2019. Avec 4 salariés. Et actuellement, on a 10 salariés. Et quand on a réouvert, on était 7 coopérateurs associés. Et maintenant, on a un peu plus de 300 coopérateurs associés. Coopérative, parce que déjà, il fallait multiplier les coopérateurs et les associés et créer une dynamique autour du redémarrage de la chapellerie. Et parce que personnellement, tous les membres fondateurs n'étaient pas des gens fortunés, même si certains avaient un petit peu plus de sous que d'autres. Voilà, c'était un pari, mais c'était aussi pas un pari capitalistique proprement dit, mais un pari industriel de refaire vivre une chapellerie, maintenir un savoir-faire et le transporter, pas créer quelque chose de nostalgique, mais vraiment l'ancrer dans le futur. Donc chercher des nouveaux marchés, etc., etc. Voilà, puisque le chapeau dans la Haute-Vallée a été une industrie florissante il y a un siècle et qui, après la Deuxième Guerre, a commencé à péricliter au fur et à mesure. Voilà, en 59, il restait 2 chapelleries. En 63, il ne restait plus que celle-là. Quand la chapellerie a fermé en mars 2018, il restait 9 ou 10 salariés.
Mais tout ça, c'est du boulot, du boulot, du boulot.
La cloche est finie. Le travail sur la cloche est fini. Et on va passer au formage. Le formage, donc vous voyez, on va utiliser des moules. Tous les moules comme sont en deux parties.
On est en quoi comme matière là?
Ça c'est de l'aluminium. Hein.
Tous les moules là c'est tout de l'aluminium, il y en a énormément.
Alors ici il y a 1500 moules dont 500 moules différents. Ça veut dire que par moule il y a une moyenne de 3 tailles. Hein. Alors il y a des moules, ça veut dire qu'il y a des moules aussi qui ont 8 tailles et des moules qui ont une taille unique. Et beaucoup de moules à taille unique sont des moules de dames qui se sont faire un chapeau à leur style, à leur taille, etc. Hein? Alors ici, il y a énormément de moules parce que au fur et à mesure que les chapelleries dans la région fermaient, les moules étaient rapatriés ici.
Et là, je vois plusieurs noms, donc je vois notamment La Divine, Andalou, Petite Ricorne, Chouan, Petit Borsalino, c'est tous des noms de formes de chapeaux en fait.
Voilà, c'est les noms traditionnels. Du forme de chapeau.
Le jazz, c'est quoi? Tiens, le jazz, par exemple.
C'est le 3120.
Ah, ça me parle bien en forme, ça, 3120.
Voilà, donc, non, mais après, c'est des matières de référence. 3142. Je le cherche. Voilà, c'est ça, le jazz. Voilà.
Oui. Ah oui, donc on voit la forme. Alors là, pour décrire le jazz, c'est quoi? C'est
ouais, ça fait vraiment jazz années 30-40, quoi. Hein, Voilà, le type de chapeau, c'est voilà, c'est un chapeau avec quand même un bord assez haut, hein. Et puis après un petit peu bombé sur les bords, hein. Voilà. Et donc
là, je vois par exemple des moules petites tricornes. Enfin, on pense tout de suite à Napoléon. J'imagine que cela.
Non, non, petites tricornes, ça peut être.
Ah, rien à voir.
De l'armée ou des choses comme ça.
J'imagine qu'on n'en fait peut-être pas spécialement encore beaucoup de cela maintenant.
Ça dépend, parce que vous pouvez en avoir les commandes de l'armée. Si on a une commande de l'armée, on peut avoir la fabriquer des tricornes. Hein. Là, on est en train de répondre à un marché. Ou alors, ça peut être aussi peut-être pour un carnaval ou des choses comme ça. Ça peut varier. Hein. Mais voilà, effectivement, c'est plutôt des chapeaux d'uniforme, entre guillemets. C'est pas, on va pas porter monsieur tous les jours un tricorne, quoi. C'est voilà. Avant, ça pouvait plus se porter que d'autres.
À l'époque, ici, on fabriquait les moules. Il y avait une fonderie à l'époque. Bon, maintenant, il n'y a plus de fonderie, mais il existe encore des entreprises, bien sûr, qui fabriquent des moules. Il suffit de leur dire, on veut telle forme, et ils nous feront des moules adaptés à notre demande. Ça existe encore, heureusement.
Après, il y aura 250.
Il y avait un client. Il y a un client et pour le magasin, c'est ça.
Il y a un pour le client, c'est le 59.
Donc là, vous voyez, c'est le formage ou la pédale. Donc ils appliquent la cloche sur le moule du bas et celui du haut, il est fixe. Et avec la pédale, ils vont le monter et ils vont serrer. Et ça va rester quelques minutes pour que ça prenne la forme du moule.
Et là, on travaille sur du chaud, parce qu'il y a sur la machine. Comment expliquer ? On a une machine où il y a une base, on met le bas du moule, il y a une flamme là, et c'est alimenté au gaz, il y a une flamme, il faut travailler à chaud toujours.
Ouais, il faut que ça soit à peu près à 110 degrés. Et donc, pour que ça soit à 110 degrés, on crachouille, hein, sur le métal, et quand ça pépite, voilà, c'est que c'est à bonne température. Voilà. Et le moule du haut, la partie haute, elle est fixe.
C'est la partie basse qui vient, qui monte.
Qui vient monter avec la pédale. C'est pour ça qu'il y en a ici, ils appellent ça la pédale. Et la base est toujours la même. Après, on change selon le chapeau qu'on veut faire, on change les moules. Ça peut être. Alors après, on peut avoir, si on a par exemple, je ne sais pas, on va faire du 57, 58, 59, machin, etc. Différentes tailles, ça peut être le même moule avec des tailles différentes. C'est, voilà, ça dépend vraiment des commandes.
Là, je vais m'approcher un petit peu. Non. Là, il reste combien de temps en sous pression là, dans le moule ?
5 minutes à peu près là.
5 minutes, et quand on relâche la machine, c'est-à-dire quand on relâche la pédale, le chapeau a sa forme.
Oui, il a sa forme. Il faut le laisser un peu dessus pour qu'il refroidisse et on l'enlève.
Et maintenant, nous allons vaper. Enfin, quand je dis nous allons, moi je vais juste prendre le son. Vous allez juste écouter. C'est Serge qui va vaper.
On appelle vaper ce que fait Serge là. C'est vraiment la dernière opération du chapeau. C'est quand tout est fini. C'est un peu comme cirer les chaussures. Voilà.
Ça va permettre aux fibres de remonter. Avec la vapeur, les fibres qui ont été écrasées quand on a moulé le chapeau, bien avec la vapeur, ça les fait remonter. Comme ça, on ne voit plus de défauts. Voilà. Là, au début, il est comme ça, le chapeau. Une fois formé, il est comme ça. Voyez. Ça, c'est la forme sortie de moule. Voilà, et après, nous, on le fignole.
Maintenant, le lustrage.
Ça se fait avec la peau de chien de mer, la peau de roussette. connaissez la chanson à la Bastille, on aime bien les nids pois de chiens, ben voilà.
À la Bastille, on aime bien les
nids pois de chiens. Lily pois de chiens, c'est une femme qui nettoyait les parquets avec de la peau de chien. Son nom, c'est Lily. Donc vous voyez là, y a, si on passe ici. Voilà. Vous voyez là, il y a la peau de mer, le chien de mer, la roussette. Et là, on va passer la cloche. Voilà. Hein, c'est pour donner un éclat particulier à la cloche.
Il en faut des opérations pour faire un chapeau de feutre. Maintenant, nous allons à la couture.
Là, il y a différentes machines selon le type de couture qu'on veut faire.
Ça n'a fait que ça, comme le bruit.
Et là, on vient de.
Non, c'est que des points.
Là, on vient de faire quelques points pour, voilà, pour mettre l'étiquette sur le galon.
Voilà, c'est ça, c'est pour le galon intérieur.
Et là, je crois que le chapeau est prêt pour l'expédition.
Quand on expédie les chapeaux, vous voyez, on fait des protections. Et le chapeau dans les cartons est toujours mis à l'envers.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau.
Avant, tout le monde portait des chapeaux, avant la Deuxième Guerre. Hein, l'ouvrier portait plus la casquette, le chapeau était plus le patron ou le contremaître, mais toutes les dames portaient des chapeaux, etc. Et peu à peu, l'habitude de porter des chapeaux est tombée un peu en désuétude, en partie... par le fait que le développement de la voiture, hein, puisqu'on était protégé avec la voiture, on avait déjà un toit. Hein, le chapeau, quand même, a une fonctionnalité en dehors de l'aspect costume ou élégance, etc., de protéger la tête du vent, de la pluie, des intempéries, etc. Hein.
Un grand merci à toute l'équipe de Montcapel pour l'accueil. Montcapel, c'est à Montazel, dans l'Aude, quelques dizaines de kilomètres au sud de Carcassonne.
On peut visiter la chapellerie. Il y a des visites tous les derniers mercredis du mois, l'après-midi à 14h30. Et puis, il peut y avoir des visites à la commande pour des groupes.
Pour en savoir plus sur la coopérative Montcapel, dernière chapellerie en France capable de fabriquer un chapeau en feutre, de la laine au chapeau fini, rendez-vous sur le site montcapel.com.
Quelqu'un qui achète un chapeau ici après avoir visité l'usine, il emporte un peu de l'usine dans le chapeau. Hein. Fabrique entre aux alentours de 8000, peut-être un peu plus, chapeaux, ça dépend un peu des années. Notre objectif, c'est quand même de dépasser la barrière des 10 000, voire plus. Voilà. Tout ça dépend aussi des commandes, du nombre de gens qu'on arrive à former, de l'entretien du matériel, parce qu'on est confronté à trois processus. Hein. Effectivement, trouver de nouveaux clients, former des nouvelles personnes à ce savoir-faire, et entretenir le matériel.
Merci pour leur participation bien involontaire à Sacha Distel, Les Innocents, Les Têtes Raides, Aristide Bruand, Georges Brassens. Musique additionnelle, John Bartman.
Positive. Au monde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr, sebdil.fr.
C'est fini.